Bonne fête du Canada à tous. C'est Thibaut Temmerman au micro du Monde en Partage sur le 5FM. À mes côtés, il y a Aline Zallé, que vous retrouverez à la fin de cette émission pour une revue de presse Coups humains sous le thème énigmatique en kit. Alors, chose promise, chose due, après l'adhésion effective de la Croatie à l'Union européenne, aujourd'hui, et dont on a parlé la semaine dernière, on revient au pays pour parler de la politique étrangère du Canada et évoquer le droit international. Alors, la réputation du Canada vis-à-vis du droit international est longtemps demeurée excellente. Il n'y a qu'à penser à son rôle dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la mise sur pied des Nations unies, de la contribution de l'avocat Philippe Kirsch pour la création du Tribunal pénal international, qu'il a du reste été le premier à présider, le gouvernement du Canada ayant ratifié le statut de Rome en juillet 2000. Citons encore le nom de Louise Arbour, qui présida les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles que le Canada fut, là encore, le premier à ratifier en novembre 2005. Alors, le contexte est certes important, mais nous n'allons pas uniquement parler du passé et nous intéresser aussi à ce qui fait l'actualité. Et c'est pourquoi je suis heureux de vous accueillir, Madame Hélène Laverdière. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes députée néo-démocrate de la circonscription Laurier et Sainte-Marie, ainsi que porte-parole de l'opposition officielle pour la coopération internationale.
Voilà.
Nous allons profiter ici de votre présence, mais également de votre expérience, puisque vous avez travaillé pendant 15 ans au ministère des Affaires étrangères canadien. Et vous avez notamment été en poste, je crois, à Washington, Dakar et Santiago. J'ai tressé les lauriers du Canada en matière de promotion du droit international et des droits de la personne. Mais voilà, depuis, il y a eu le retrait du Canada du protocole de Kyoto et l'annonce encore plus étonnante du retrait de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, ce qui fait que le Canada est le seul pays de l'ONU à ne pas en faire partie. Alors le vent aurait-il tourné à Ottawa ?
Écoutez, oui, malheureusement, le vent a tourné et je dirais que c'est presque un ouragan dans l'autre sens. Bon, vous mentionniez la Convention sur la désertification et c'est pas la seule, là. Mais je pense que la Convention sur la désertification est un très, très bon exemple parce que ça montre bien ce que le gouvernement conservateur n'aime pas ou ne considère pas comme important et l'espèce d'étroitesse d'esprit. Les raisons invoquées pour se retirer de la Convention sur la désertification, et je vous dis, tout le monde était absolument ébahi. La première raison qu'ils ont dit, c'est pour sauver de l'argent, alors que ça coûte environ 150 000 $ par année. Moi, je calculais qu'avec ce qu'on a payé pour souligner, commémorer la guerre de 1812, on aurait pu payer notre contribution pendant une couple de siècles à la Convention sur la désertification. En même temps, c'est mal comprendre les intérêts du Canada. Alors, en ce moment, le Canada, le gouvernement Harper, aime mieux aller donner de l'argent, des millions quand il y a une famine, plutôt que de donner quelques dizaines de milliers de dollars pour prévenir les famines. Et en plus, c'est de ne pas comprendre que c'est une situation qui nous affecte au Canada aussi. Dans les prairies, on a des phénomènes de désertification. Mais la raison finale que les conservateurs ont toujours invoquée, ils ont dit, c'est ce qu'on appelle en anglais un « talk shop ». C'est-à-dire les gens ne font que parler et il n'y a que 20 % du budget qui va à des projets. C'est tellement ne pas comprendre ce qu'est la Convention sur la désertification que c'est absolument ahurissant. Parce que un des objectifs premiers de la Convention, c'est des échanges scientifiques, des échanges sur les meilleures pratiques, sur les expériences des divers pays, de façon à pouvoir améliorer le fonctionnement de chacun. Ben, je m'excuse, des échanges scientifiques, c'est pas d'aller prendre une pelle et de creuser à quelque part. C'est de se rencontrer et de discuter. Mais on a un gouvernement qui n'aime pas la discussion, qui n'aime pas le dialogue, qui n'aime pas les questions environnementales, la désertification c'en est une, et qui n'aime pas la science. Alors, je trouve que ce dossier-là résume tellement bien l'approche conservatrice sur ces sujets-là, mais c'est bien triste.
Vous parliez de dialogue. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le secrétaire qui est chargé de vérifier les signatures de cette convention contre la désertification, il a appris par les journalistes de Radio-Canada que le Canada voulait s'en séparer.
Le seul mot qui me vient, et je vais le répéter, c'est ahurissant. Et je vais vous donner un autre exemple.
Allez-y.
Quand le ministre Fantino, ministre de la Coopération internationale, est allé en Haïti, et il a trouvé qu'il y avait trop de déchets dans les rues. Et là, il a dit, dans ma ville, chez moi, on a un système Adopt a Highway où les gens font du bénévolat le dimanche pour ramasser les déchets. Ce qui est, encore là, ne pas comprendre la situation en Haïti, ne pas comprendre que pour ramasser les déchets, faire du bénévolat pour ramasser les déchets, quand les gens ne savent pas s'ils vont manger dans la journée, c'est pas leur première préoccupation. Et que les déchets, il faut encore avoir des moyens pour les transporter et un endroit sécuritaire pour les mettre, que c'est pas évident. En tout cas. Mais pour revenir au point principal, il est revenu et il a dit, d'accord, on gèle la contribution de l'ACDI à Haïti. L'ambassadeur du Canada en Haïti l'a appris par les médias. Le gouvernement haïtien l'a appris par les médias. Des partenaires importants comme les Nations Unies, comme les Américains, l'ont appris par les médias.
Admettons l'explication fournie par le gouvernement du Canada. Ce que je veux dire, ce sont des instruments. Est-ce qu'on respecte l'objet de ces instruments,
même si on s'en retire? Absolument pas l'objet de ces instruments. Et même les propres objectifs que le gouvernement s'est donné en matière d'environnement, il les rencontrera pas. Et dans la mesure où ils vont en rencontrer une partie, ce sont essentiellement des résultats qui ont été obtenus par les provinces, qui ont fait preuve de beaucoup plus de leadership sur la question. Pour revenir sur la question du droit international, je pense qu'il y a un autre bon exemple qu'il faudrait mentionner aussi. Quand on compare ce que le Canada a fait et ce que le Canada est en train de faire sur le dossier des armes sous munitions, on voit l'étendue de la déroute de la politique actuelle. On le sait, la Convention sur les mines antipersonnelles, le Canada était le leader mondial là-dessus. La Convention, les ONG qui appuyaient la Convention ont mérité le prix Nobel de la paix pour ça. On a des partenaires importants comme les Américains qui n'ont pas signé formellement la Convention, mais qui ont plus ou moins ajusté leurs actes pour respecter l'esprit de la Convention. En ce qui concerne les armes sous munitions, ces armes-là sont pas très bien faites. Il y a une proportion énorme qui n'explose pas. Et les sous-munitions, c'est gros à peu près comme une balle de tennis. C'est coloré. Alors évidemment, ça attire les enfants. Et c'est le même problème qu'avec les mines antipersonnelles, c'est-à-dire que 90% des gens tués ou blessés par les armes à sous-munitions sont des civils. Encore là, ça reste là sur le terrain pour des décennies. Donc, c'est un problème très similaire aux mines antipersonnelles.
Sans oublier le traité donc sur le commerce international des armes que le ministre canadien des Affaires étrangères, John Bird, a déclaré « on va voir, on va consulter
Écoutez,
avant de le signer ».
C'est vraiment terrible et je vais revenir là-dessus. Mais pour terminer sur les armes à sous-munitions, le Canada a fini par signer la convention en faisant ajouter des choses que les autres pays n'aimaient pas, qu'ils ont accepté en se disant « il faut que le Canada soit partie de cette convention-là ». Mais là, les conservateurs viennent de déposer le projet de loi de mise en œuvre de la convention. Et le projet de loi va complètement à l'opposé de ce que veut la convention. La convention, comme les mines antipersonnelles disaient, les militaires canadiens n'utiliseront pas ces armes-là. Essentiellement, je simplifie un peu. Le projet de loi dit « dans certaines circonstances, les militaires canadiens vont pouvoir utiliser ces armes-là. » La raison invoquée, c'est de dire, ben, écoutez, on a des opérations communes avec les Américains, donc il faut se garder des portes de sortie. Mais pourtant, les Britanniques ont des opérations communes avec les Américains et ils ont un projet de loi qui respecte beaucoup plus la Convention. Écoutez, une vraie honte, un ex-premier ministre australien a dit que le Canada avait des politiques régressives. Le traité sur le commerce des armes vise les échanges, le commerce entre pays et non pas à l'intérieur des pays. Mais là, les Canadiens, le gouvernement canadien, ils voulaient faire mettre des exemptions pour les armes sportives et les armes de chasse. Il s'est fait dire, cette catégorie-là, armes sportives, ça n'existe pas, ni en droit international, ni en droit canadien.
D'un point de vue de droit international, ça pose problème justement le fait qu'ils fassent ces projets de loi, puisqu'on est censé les respecter de bonne foi,
oui.
Pacta sunt servanda.
Absolument, c'est comme si vous signiez une convention contre le travail des enfants, et après, pour mettre en œuvre la convention au pays, vous disiez « Ah, mais il peut y avoir du travail des enfants ». C'est complètement contradictoire. Et là, maintenant, le Canada parle de ne pas signer la convention, sous des prétextes absolument fallacieux, comme si ça allait avoir un impact sur ce qui se fait à l'intérieur du pays. C'est une convention pour les ventes d'armes d'un pays à un autre. Le moins il y a d'armes et le moins il y a de conflits sanglants. C'est un peu simplifié
oui,
comme ça, mais...
C'est-à-dire en fait des standards sur l'importation, l'exportation et le transfert
oui.
des armes conventionnelles. On va poursuivre cette discussion très intéressante avec ce petit extrait de jazz. C'était l'ensemble de jazz aussi montréalais que métissé, Beaumata, avec Safran, tiré de leur dernier album, Arôme d'ailleurs. Beaumata, un groupe que j'avais eu le plaisir de découvrir il y a 2 ans au Festival de Jazz de Montréal, et ils reviennent cette année, le 6 juillet, à 21h, sur la scène CBC Radio-Canada, et vous aurez compris que je vous les recommande chaudement. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Centre-Ville et du Monde en Partage. Nous sommes avec Hélène Laverdière pour parler de la politique étrangère du Canada. Alors, Madame Laverdière, votre élection face au chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, n'était pas passée inaperçue. Mais à l'époque, ce qui avait également retenu mon attention, c'était vos propos relayés dans un article paru dans la presse. Vous disiez « Ce que j'ai appris du Canada à l'étranger, c'est qu'à une certaine époque, notre réputation était enviée et enviable ». Mais la réputation du Canada a été ternie au cours des dernières années par certains gestes. Comment a évolué encore ce regard de la scène internationale ?
Je vous dirais en quelques mots, malheureusement, c'est encore pire. Au niveau de la coopération internationale, maintenant on veut se servir de la coopération internationale pour ouvrir des marchés pour les entreprises canadiennes. Plutôt, j'ai rien contre ouvrir des marchés pour les entreprises canadiennes, mais c'est le rôle du ministère du Commerce international. À plein de niveaux, le Canada est maintenant vu comme le mauvais joueur, l'espèce de pique-assiette qui va un peu chercher ce qu'il veut et puis qui rentre chez lui sans vouloir travailler sérieusement avec ses partenaires. Et on voit que le Canada commence à se faire fermer des portes. On l'a vu d'une certaine façon au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand on n'a pas eu notre siège là.
En 2010.
Mais, voilà.
Et visiblement, le Canada n'a même pas l'intention de se représenter.
Non, ça ne les intéresse pas. Le gouvernement actuel, ça ne les intéresse pas de travailler
ça
avec les autres.
Ça ne les intéresse pas ou ils ont peur de subir une nouvelle défaite?
Bon, je crois qu'ils ont peur de subir une nouvelle défaite, très manifestement, parce que notre réputation va de mal en pis. Hein. Il faut s'en rendre compte. Moi, je rencontre des gens, je rencontre des diplomates étrangers basés à Ottawa. Je parle à des gens, évidemment, j'ai beaucoup de copains qui travaillent au niveau international. Ce que j'entends est absolument terrifiant. Le Canada a perdu son lustre, sa réputation en l'espace de quelques années. Et vous savez, il est rapide de perdre sa réputation, mais c'est très long de la rebâtir. Et la monnaie la plus essentielle pour un pays, c'est sa réputation. Et c'est ce qui avait toujours fait notre force. Ça nous a ouvert des portes. En plus, et ça nous a aidé à contribuer à la paix dans le monde. Et vous savez, quand le monde va bien, le Canada va bien. On est un pays commerçant. On est un pays qui a le monde à l'intérieur, des gens qui viennent de partout sur la planète. Notre bien-être dépend du bien-être de la planète. Maintenant, non seulement on ne peut plus y contribuer aussi activement qu'autrefois, mais en plus on se fait fermer de plus en plus de portes. Il y a le Forum des pays de l'Asie du Sud-Est. Le Canada voulait participer au Forum, il s'est fait dire non, parce que vous n'êtes pas vraiment engagé, vous n'êtes pas vraiment un partenaire, vous ne pouvez pas juste venir puis dire « Ah, tout à coup, je vais être invité au souper de fête » et puis ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ce gouvernement-là n'a pas l'air de le comprendre.
Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation, Hélène Laverdière. Et je rappelle donc que vous êtes députée néo-démocrate de la circonscription Laurier-Sainte-Marie et également porte-parole pour l'opposition à la coopération internationale. Heureusement, puisque l'on parlait de réputation, une étude d'un cabinet en management de réputation des pays dans le monde a montré que le Canada était encore perçu comme le meilleur s'agissant de la confiance, de l'estime, de l'admiration et du respect que lui portent les autres habitants dans le monde. Ouf, on a encore des motifs de se réjouir. Alors, si certains se demandaient « Mais quel est le groupe à l'origine de notre générique ?» Eh bien, il s'agit de Viva Nova, et voici une autre de leurs compositions, « Afecht ».
Keep on, bébé, nous m'appelons Kaipiri. bom samba, sem parar a noite inteira.
Que bom tocar violão de tarde na praia.
Que bom cantar a vida que passa e que vai.
Eu quero festejar a vida sempre assim, som da felicidade. Eu quero festejar a vida sempre assim, som da felicidade.
Que bom nadar no mar de Copacabana.
Que bom andar na lagoa com uma menina.
Que bom que veio show dos rivalistas.
Que bom fazer toda a gente festejar.
Eu quero festejar a vida sempre assim, só me dá felicidade. Eu quero festejar a vida sempre assim.
C'était le groupe montréalais, lui aussi, Viva Nova avec A Festa. J'en profite ici pour saluer le duo de Viva Nova, Michael Lucier et Patty Payne, puisque une autre de leurs musiques, O Tempo do Carnaval, constitue le générique de cette émission. Et vous pourrez les retrouver ainsi que leurs instrumentistes au Festival International de Jazz de Montréal et plus précisément au Balmoral du 5 au 7 juillet à partir de 22h. C'est le moment de la rue de presse avec vous, Aline, bonjour.
Bonjour Thibault.
Alors, de quoi est-il question cette semaine ?
Eh bien, en l'honneur du 1er juillet, mais aussi de la fête du déménagement, je vais aujourd'hui vous livrer une revue de presse en kit.
Et qui dit kit, dit IKEA, forcément. Et la semaine dernière, IKEA faisait l'actualité avec ses maisons en kit pour les camps de réfugiés.
Alors oui, tout à fait. La semaine dernière, le géant de l'ameublement suédois dévoilait une maison pour camps de réfugiés. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on entendait plus parler d'IKEA pour des scandales que pour des nouvelles positives. Et je vais pas toutes les passer en vue, mais on peut dire que ces dernières années, la cellule de crise du géant suédois a fonctionné à plein régime. Peut-être que vous vous souvenez des fameuses tartes au caca que l'on pouvait retrouver en mars dernier dans leurs épiceries fines, ou en octobre dernier du retrait de toute présence féminine du catalogue saoudien. Et puis si on remonte un peu plus loin, on repense aussi aux révélations sur le passé nazi du fondateur Ingvar Kamprad. C'est dans ce climat que l'entreprise suédoise, via sa fondation, a annoncé la mise en place de ce projet humanitaire.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces abris IKEA ? Quel est leur intérêt ?
C'est très simple, IKEA a mis tout son savoir-faire sur le kit au profit de ce projet. Ces petites maisonnettes se montent en 4 heures montre en main, et surtout ce qui fait tout leur avantage, c'est qu'elles durent beaucoup plus longtemps que les tentes traditionnelles utilisées dans les camps. Généralement, ces tentes sont endommagées au bout de 6 mois à cause des conditions climatiques, et on peut dire que le confort y est plus que sommaire. Ces fameuses petites maisonnettes en kit, qui n'en sont d'ailleurs qu'au stade de prototype, auraient-elles une durée de vie de 3 ans et sont même équipées de panneaux solaires, ce qui leur permet d'être autonomes en énergie et de produire de l'électricité dans l'abri. Quand on sait qu'un réfugié reste en moyenne 12 ans dans un camp, on imagine que ce confort n'est pas un luxe.
Une excellente initiative en effet, et où pourra-t-on retrouver ces maisonnettes ?
Alors comme je vous le disais, elles en sont encore au stade de prototype et à ce jour 50 en ont été fabriquées. Le Haut Commissariat aux réfugiés attend les commentaires des premiers réfugiés justement avant de donner le feu vert à une plus large production. Les kits tests sont en train d'être déployés en Éthiopie et aussi aux frontières irakiennes et libanaises pour les réfugiés syriens.
On estime qu'en moyenne il y aurait 43 millions de réfugiés sur Terre et chaque maison pourrait abriter 5 réfugiés. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait au total, si mes calculs sont bons, 8 600 000 petites maisons IKEA pour abriter tout le monde. Il y aurait donc un potentiel commercial également énorme, non ?
Oh, tout de suite vous pensez à ça Thibaut. Non, le géant suédois a bien affirmé que ce projet n'a qu'une visée philanthropique. La maisonnette, si elle est construite à grande échelle, pourrait avoir un prix de revient de 1 000 $, contre 500 pour la tente traditionnelle. Reste qu'à 1 000 $ la maisonnette, on imagine très bien que ce projet humanitaire, qui a déjà coûté 4 millions de dollars à la fondation, aura ses limites. Alors les ONG auront-elles les moyens de s'équiper de ces abris ? L'histoire nous le dira. En tout cas, IKEA aura trouvé cette semaine un très beau moyen de conquérir le tiers-monde et aura, on peut le dire, gagné la palme du plus beau coup de com' de la semaine.
On reste toujours dans la thématique du kit, mais cette fois avec une nouvelle moins réjouissante, les armes imprimées en 3 dimensions.
Pour rappel, ces armes peuvent être fabriquées à la maison à partir d'imprimantes 3D. Alors le souci avec ces nouveaux joujoux, c'est qu'ils sont déjà plus vrais que nature, que leur traçabilité est impossible puisqu'elles n'ont pas de numéro de série, et qu'elles passent le détecteur de métaux sans aucun problème puisqu'elles sont majoritairement constituées de plastique. Ces fichiers imprimés sont disponibles sur des plateformes de téléchargement illégales, ce qui les rend accessibles à tous. Alors même si certaines vidéos montrent des tests peu concluant sur la fonctionnalité de ces armes 3D, il faut dire que la véritable problématique est le fait que le port d'armes 3D est à la portée de tous et que chacun pourrait s'équiper d'armes potentiellement meurtrières, et ce sans forcément un contrôle de l'État.
C'est un sujet qui est justement revenu sur le devant de la scène car certains États tentent de légiférer sur la question.
On sait qu'aux États-Unis, la problématique du port d'armes à feu prête à polémique et ne cesse d'être discutée, notamment après les nombreuses fusillades de ces derniers mois. Au cœur de cette polémique, on parle de plus en plus des armes 3D. Et récemment, le conseil municipal de New York a présenté un projet de loi interdisant l'utilisation d'une imprimante 3D afin, je cite, « de créer une arme à feu, un fusil de chasse ou toute pièce pouvant les constituer ». La loi prévoit aussi d'obliger les armuriers à déclarer tout pistolet 3D qu'ils fabriqueraient auprès de la police. Un premier pas vers le désarmement 3D aux États-Unis.
Le Monde en Partage, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve comme d'habitude lundi prochain à 11h. Et d'ici là, vous pourrez télécharger ou réécouter en ligne cette émission. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com ou la page Facebook de notre émission. C'était Thibaut Temmerman à la réalisation. Merci encore à notre invitée de ce jour, Hélène Laverdière, ainsi qu'à Aline Zalé pour la revue de presse et son soutien à la technique. Juste après la pub, c'est le magazine Centre-Ville. Portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville.